French morning.
French morning.
French morning.
French morning.
French morning.
French morning.
French morning, y'all.
Cet épisode a reçu le soutien de la CFE. La CFE, vous connaissez ? C'est la Caisse des Français de l'étranger et il s'agit d'une caisse de sécurité sociale créée en 78 pour les Français résidant hors de France. Maladie, maternité, accident du travail ou encore retraite, la CFE permet aux Français de l'étranger de continuer de bénéficier de la même protection sociale qu'en France à l'étranger. Pour en profiter, il vous suffit d'adhérer à la CFE, peu importe votre situation, peu importe le pays dans lequel vous vivez ou dans lequel vous vous rendez, et bien entendu, peu importe la pathologie ou les circonstances, catastrophes naturelles, faits de guerre, etc. Grâce à la CFE, vous pouvez vous détendre. La Caisse des Français de l'étranger assure la continuité avec le système français de sécurité sociale lors de votre départ de France, mais aussi lors de votre retour d'expatriation, ou encore grâce à la prise en charge des frais de santé pendant vos prochaines vacances en France. Pour en savoir plus, direction cfe.fr.
Et du coup, j'ai décidé, suite à ce burn-out, de me lancer dans l'entrepreneuriat, de faire ce que j'aimais vraiment, de me reconnecter, de trouver ma mission de vie, on va dire. Et donc, c'est passé par accompagner les gens dans une vie plus saine, grâce à l'holistique, à des méthodes naturelles, du développement personnel, etc.
Bienvenue sur French Expat, le podcast. Le podcast des voyageurs expatriés francophones du bout du monde.
Bonjour à toutes et à tous, je suis Charlotte, une des membres de la team French Expat le podcast et je vous parle depuis Brooklyn, New York. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode de French Expat le podcast, saison 2. Nous espérons que vous avez passé un bel été et nous avons hâte de vous dévoiler nos invités de cette nouvelle saison et leurs belles histoires à travers des épisodes tous plus inspirants les uns que les autres.
Aujourd'hui, nous partons à la rencontre d'une jeune femme motivante, inspirante, qui a osé se lancer dans le monde de l'entrepreneuriat. Je nommée Chloé Bloom. Vous la connaissez peut-être par ses podcasts sur le développement personnel, l'estime et la confiance en soi, par sa chaîne YouTube ou son compte Instagram au nom de Chloé Bloom. Mais Chloé est avant tout une femme qui, à la suite d'un burn-out, s'est demandé qui elle était, ce qu'elle souhaitait, ce qu'elle recherchait pour sa vie personnelle et professionnelle. Elle a donc décidé de croire en elle, de croire en ses rêves. C'est ainsi qu'est née son entreprise de coaching et de développement personnel. Chloé évoque avec nous qui elle est, et comment elle a réussi à faire de ses rêves, sa vie, ses projets et ses valeurs qui lui permettent de se dépasser pour aider les autres à vivre sainement et plus sereinement. Alors sans plus attendre, je vous emmène à la découverte de Chloé et je vous laisse découvrir ce premier épisode de notre saison 2. Belle écoute à tous. Bonjour Chloé, merci d'être avec nous pour ce nouvel épisode de French Expat, le podcast.
Bonjour et merci beaucoup du coup pour votre invitation, ça me fait plaisir.
C'est super, nous sommes heureuses de t'avoir avec nous et donc du coup de pouvoir partager avec nos auditeurs ton expérience et ta vie en tant que Française à l'étranger.
Oui, c'est ça, en tant que nomade.
Digital nomade, c'est ça.
Ouais.
Alors Chloé, est-ce que tu peux justement te présenter et nous en dire un peu plus sur toi, d'où est-ce que tu viens et où est-ce que tu es ?
Avec plaisir. Alors, moi, j'ai été donc salariée pendant plusieurs années. J'ai fini par faire un burn-out après être restée plusieurs années dans une entreprise avec un poste à responsabilité. Et du coup, j'ai décidé, suite à ce burn-out, de me lancer dans l'entrepreneuriat, de faire ce que j'aimais vraiment, de me reconnecter, de trouver ma mission de vie, on va dire. Et donc, c'est passé par accompagner les gens dans une vie plus saine, grâce à l'holistique, à des méthodes naturelles, du développement personnel, etc. Et en fait, j'ai construit mon entrepreneuriat autour de du online, en fait, avec des réseaux sociaux, avec de l'accompagnement en ligne, etc. Et en fait, grâce à ce métier-là, j'ai pu quitter la France, partir voyager. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis nomade. Donc, je suis partie de France il y a un an et demi et puis j'ai fait pas mal de pays, entre guillemets, depuis. Et voilà, donc mon métier aujourd'hui, je fais du mentoring, donc je suis mentor holistique. Je suis coach aussi dans tout ce qui est développement personnel. Je fais des interventions, j'ai créé mes propres retraites autour du monde. Et voilà, pas mal de petites choses pour aider les femmes et les gens de manière générale à s'épanouir, s'accomplir, être plus heureux, plus sain, plus serein.
D'accord. Voilà. Alors du coup, tu dis que ça a démarré suite à un burn-out. Mm-hmm. Qu'est-ce qui... t'as donné envie de te lancer dans l'entrepreneuriat? C'est vraiment ce point de départ, c'est ton burn-out, ou il y a eu, t'y pensais déjà depuis quelques temps?
Alors, j'y ai jamais pensé, en fait, parce que je suis pas du tout née dans une famille où il y avait des entrepreneurs, donc j'ai jamais eu trop ce schéma-là, en fait, sous les yeux.
D'accord.
Et puis, à vrai dire, j'ai très longtemps pensé, comme la majorité des gens aussi, que c'était pas possible de vivre de ses passions ou du moins d'avoir un métier vraiment agréable lié à nos passions. Donc pas vraiment.
C'est vrai.
Non, mais il y a vraiment cette croyance là et c'est vraiment dommage.
Mais on n'ose pas forcément se lancer en fait. On dit toujours bah ça c'est, on s'amuse, ça m'amuse de le faire, mais on se dit pas qu'on peut en vivre.
Et oui, complètement, complètement. On a aussi beaucoup cette modalité de il faut souffrir pour gagner de l'argent ou un vrai métier c'est aussi un métier qui est pas agréable ou enfin voilà.
Qui est dur.
Ouais, c'est ça. Donc j'avais vraiment cette idée là, ce schéma de pensée là, et puis j'adorais mon job et j'adorais l'entreprise dans laquelle j'étais, sauf que c'était pas vraiment en alignement avec alors c'était en alignement avec certaines de mes valeurs, le bio, le nature, le management, etc., mais c'était pas en accord avec une de mes valeurs fondamentales qui est l'émancipation et la liberté.
Ouais, tu te sentais plus bien dedans, c'est ça?
C'est ça exactement. Je me sentais pas libre, j'avais pas l'impression de contribuer à quelque chose de plus grand que moi, de vraiment être investie d'une mission. Donc ça a fini par péter quoi. Un jour je me suis levée, je pouvais plus aller au travail, je voulais plus bouger, c'était plus possible, j'avais l'impression que j'allais mourir. Donc burn-out. Voilà.
Et là tu t'es dit il faut que je fasse quelque chose, faut que je prenne du temps pour moi et faut que je trouve ce qui me fait vivre.
Ben en fait oui, c'est un petit peu ça. En fait, je me suis dit ce burn-out, il est pas là juste parce qu'il y a trop de pression ou trop de travail, parce que j'adore quand même ce que je fais. C'est que il y a quelque chose que j'écoute pas en moi, qu'il faut absolument que j'écoute. Je sais que je suis capable de faire plein de choses, je suis douée sur des choses qu'aujourd'hui j'exploite pas, je suis quelqu'un de très créatif et ça je l'écoute plus et je le fais plus. Donc il faut que je me ressens vraiment autour de tout ça. Et entre-temps, en fait, j'ai eu beaucoup de demandes aussi de demandes un peu sur les réseaux sociaux de « est-ce que tu peux nous partager le programme détox que tu as, que tu t'es fait pour toi, etc. ?» Je le partageais un petit peu comme ça à l'arrache, en l'envoyant en PDF, je me rappelle. Et en fait, quand j'ai fait mon burn-out, j'ai un de mes meilleurs amis qui est dans le marketing digital, qui m'a dit « mais Chloé, t'as un super potentiel, je crois en toi. Ce truc que tout le monde te demande, il faut qu'on en fasse quelque chose, tu sais que c'est possible d'en vivre en fait. » Donc il m'a ouvert les yeux et on s'est lancés tous les deux et voilà, et ça ne s'est plus arrêté. Et au contraire, on a fait grandir l'entreprise. Aujourd'hui, on a plein de gens qui travaillent avec nous et on aide des milliers de personnes. Ouais, c'est trop cool.
Et c'est super qu'une personne ait cru en toi en fait et t'ait dit « là, faut pas que tu lâches, faut que tu te lances à fond ».
Exactement, ouais. Et j'ai vraiment eu besoin de… Je crois que j'avais vraiment besoin de le voir parce que c'est pas facile quand tout le monde pense l'inverse autour de soi et que et qu'on n'a pas ce modèle-là de se dire voilà, je plaque tout et j'ai démissionné sans rien avoir derrière en plus en plein milieu du burn-out.
Ah oui, c'est ça, j'allais te poser la question en fait. Du coup, comment t'as fait ? Il y a eu une transition, tu t'es dit bon, faut quand même que je garde quelque chose à côté pour le temps de lancer mon entreprise. Ou tu t'es lancée comme ça, c'est parti.
J'ai au bout de 3-4 semaines de burn-out, j'étais toujours au fond de mon lit, toujours aussi angoissée. Je me suis dit en fait c'est plus possible, même y retourner c'est pas possible. Donc j'ai démissionné sans rien derrière. Je me rappelle avoir dit à mes parents, tant pis, en fait vaut mieux que je démissionne et je préfère derrière aller donner des cours à domicile, faire du babysitting, travailler chez McDo, peu importe.
D'accord.
Mais il faut que je démissionne, c'est plus possible. Je sais que j'ai rien derrière.
Faut que tu trouves.
Voilà, mais j'ai vraiment confiance en mes capacités de rebondir, donc tant pis, je ferai quelque chose d'autre. Et c'est là où mon ami m'a dit, voilà, bah, écoute, t'as démissionné, t'as bien fait parce que maintenant t'as plus le choix que de réussir. Tu es obligé de réussir ce que tu veux faire.
Ah ouais, tu t'es vraiment lancé quoi, ça a été sans parachute, c'est ça?
Sans parachute.
Alors donc du coup, on est en pour situer un peu les dates, tu dis que tu es partie il y a un an et demi, donc c'est il y a un peu plus d'un an et demi que tu t'es lancée.
Alors c'était il y a 3 ans en fait, c'était en 2017 que je me suis lancée.
C'est ça, en fait tu t'es lancée et après tu es partie.
Exactement, je me suis lancée donc en 2017, je me rappellerai toujours de ce jour-là, et ensuite la liberté quoi. Enfin alors au début, gros syndrome de l'imposteur, etc., comme beaucoup d'entrepreneurs, pas facile, voilà.
Est-ce que je le mérite? Est-ce que j'ai ma place dans le métier, c'est
ouais,
ça?
Ouais, puis non, au-delà de ça, mais comment ça se fait que moi j'ai un métier où j'arrive à gagner de l'argent, à être super heureux, à ce que ce soit pas dur, difficile, et je vois mes proches qui au contraire souffrent. Enfin donc là, j'étais déjà avec mon partenaire à l'époque qui lui était expert comptable, commissaire au compte, je le voyais tous les matins partir au boulot un peu au bout de sa vie, et moi j'étais là, bah ouais, mon métier je l'adore, j'ai l'impression d'être dans un rêve, donc je vivais pas très bien ce bonheur. C'est pas très facile, je trouve, de recevoir le bonheur. C'est quelque chose qu'on nous apprend pas à faire. Souvent c'est plus facile de gérer le malheur que de gérer le bonheur, très souvent.
Et puis souvent on préfère imaginer le pire pour être préparé.
Exactement.
Plutôt qu'accepter ce qui t'arrive positivement. Enfin, je sais que j'étais dans un état d'esprit il y a quelques années comme ça, où c'était plus facile pour moi d'envisager tout ce qui n'allait pas bien se passer plutôt que de laisser aller et de prendre le positif.
Hein. Exactement, exactement. Et ça, c'est un phénomène tout à fait logique. Ça s'appelle l'upper limit problem. En fait, c'est notre cerveau, hein, qui nous fait faire ça, qui connaît pas ce niveau de bonheur et du coup qui tente de nous faire redescendre pour nous ramener à la raison, un peu, entre guillemets. Donc, ça a duré, ouais, un an et demi, ouais.
C'est pour se protéger? C'est...
Exactement.
D'accord.
Exactement. C'est pour se protéger et pour se dire, oulala, ce niveau de bonheur, je le connais pas, reviens vite dans une zone que je connais, quelque chose de moins heureux, mais au moins je connais, je sais ce qui se passe, je sais gérer. Donc, c'est aussi pour ça que quand des fois tout va bien et qu'on est très heureux, au fond de soi, on est malheureux et on peut même être déprimé d'être trop heureux, entre guillemets, parce qu'on sait pas gérer ça. Ou alors, c'est aussi pour ça qu'on se dit, non, mais là, ça va trop bien pour être vrai, c'est trop beau pour être vrai, il y a forcément quelque chose qui va pas aller derrière, il y a forcément anguille sous roche. C'est pour ça, en fait, c'est juste pour ça, parce qu'on sait pas gérer le bonheur.
Ah, c'est fou, quand même.
Ah, c'est dingue.
Tu t'as réussi à prendre, j'allais dire, le problème, c'est pas un problème, mais à te lancer dans l'aventure en te disant, bon, là, il faut que, ça va me faire du bien et c'est le moment.
Et c'est le moment. C'est vraiment ce que je me suis dit. Je crois beaucoup aux synchronicités. Il y a beaucoup de choses qui sont arrivées en même temps. Et en fait, je sentais, j'avais ce désir de partir à l'étranger depuis très longtemps. Sauf que je me suis toujours dit, je partirai pas à l'étranger en sac à dos pour ne rien avoir quand je rentrerai. Je me suis toujours dit, si je pars à l'étranger, c'est pour que mon départ contribue à ma mission de vie. Et je me suis dit ça depuis que j'ai 15 ans. Mais je me serais jamais attendue à ce que ce soit à ce point-là, en
D'accord.
fait. Donc, je suis restée en France malgré tout après mon début dans l'entrepreneuriat pendant un an et demi, puisque mon partenaire aussi avait un travail qui, bah, lui était en France, jusqu'à ce qu'il décide lui aussi de tout plaquer, de faire le même style de métier que moi et qu'on se dise, bon, ben, il n'y a plus rien qui nous retient. Let's go. On y va. On s'en va.
C'est le moment. D'accord. Ah, c'est vraiment
c'est
ça.
C'est le moment.
C'est ouais. fou, quoi. Et donc, tu es partie ouais. en...
Australie, la première fois.
Première fois en Australie, et donc, il y a un an et demi, c'était octobre, novembre.
Je suis partie le 1er novembre, ouais, c'est ça, direction Melbourne, et on est resté du coup un an en Australie. Alors, j'ai fait pas mal de voyages entre-temps, justement, pour le boulot, le développement perso, pour tout ça. Mais en tout cas, notre première destination, ça a été l'Australie, et on y est resté à peine plus d'un an, ouais.
Et du coup, là-bas, tu travaillais. Tu continuais à faire grandir ton entreprise tout en découvrant l'Australie et les pays alentours.
Exactement. Alors, c'est ça, justement, que j'aime beaucoup dans mon métier. C'est que, ben, j'ai pas à travailler sur place. En fait, mon travail, je l'emmène sur mon dos, partout où je vais. Il suffit juste que j'ai de la Wi-Fi et tout va bien. Et en fait,
ouais,
voilà. C'est ça. Et en fait, voilà, je l'emmène partout avec moi sur mon dos. Donc, j'ai découvert l'Australie comme ça. On l'a découvert ensemble. On déménageait tous les mois. Bon, ça n'a pas été que du positif, évidemment. C'est pas facile. Mais,
c'est lourd.
Ouais, c'est lourd. C'est lourd, c'est fatigant, c'est étreignant pour le couple aussi. Pour la vie sociale, c'est très dur quand on a un travail qu'on fait à la maison, d'avoir une vie sociale justement quand on est dans un pays étranger, parce qu'on a beaucoup moins d'occasions que si on travaillait sur place, en fait, de rencontrer des gens. Donc c'est vrai que c'est pas facile.
Ouais.
Voilà, c'est comme ça que je vis, quoi, depuis un an et demi, et c'est top, c'est génial.
Tu regrettes absolument pas ton choix d'être partie?
Oh non. Tu vois, là, je suis rentrée il y a 4 jours en France, donc je suis là juste pour un mois. Et je regrette pas du tout d'être rentrée, c'est pour des bonnes raisons, mais j'ai déjà hâte de repartir presque. Donc tu vois.
Ah oui.
Ouais.
Ça te manque la liberté d'être ailleurs? C'est ce que je me posais comme question. Est-ce que tu te vois rentrer à terme dans quelques années en France, ou là maintenant c'est plus possible et tu te dis la France c'est pas que c'est trop petit pour toi, mais trop de contraintes, peut-être pas assez de liberté, de perspective, d'ouverture.
Ouais, il y a de ça. En fait, je suis partie en Australie. Avec mon chéri, on est parti en se disant, bon, de toute façon, dans un an, on rentre. Donc, voilà, on va juste voir ce qui se passe ailleurs, quoi. Et puis, en fait, 2 mois après qu'on soit arrivé, on s'est dit, bon, bah, en fait, on rentrera pas. Donc, on a continué notre voyage. Là, on s'est installé à Bali. Enfin, entre temps, on a beaucoup bougé aussi. Et en fait, non, j'ai plus envie de rentrer définitivement. Et bon, après, faut jamais dire jamais, hein. On sait pas ce qui se passera. Mais on en a déjà beaucoup discuté. Moi-même, mes enfants, j'ai envie de les avoir à l'étranger. J'ai envie de continuer de voyager avec eux si on en a plus tard. Je me vois pas rentrer. Pas parce que c'est trop petit. Il y a énormément de choses que j'adore, en fait, en France, que je voyais pas avant de partir. J'ai l'impression que quand on part.
Le syndrome de finalement, de trouver.
Finalement, c'est trop bien.
C'était bien la France. Ouais, c'est vrai.
Donc, je me rends compte de beaucoup de choses que j'ai pas trouvées à l'étranger, qu'on a de super en France, notamment la culture, la finesse d'esprit, les choses un peu raffinées, notre éducation, tout ça. Enfin, voilà, c'est des choses que j'ai pas trouvées forcément en Australie, aux États-Unis, à Bali, tout ça. Mais aujourd'hui, toute mon hygiène de vie colle beaucoup plus à ce que je trouve en Australie, en Indonésie, même aux États-Unis, même là, je reviens du Costa Rica. Mon hygiène de vie colle plus à ce que je trouve à l'étranger, pas dans tous les pays, bien sûr, mais je me vois plus rester en France. D'une part, de par le côté entrepreneur où je me sens beaucoup plus épanouie en tant qu'entrepreneur dans d'autres pays qui ont une mentalité plus développée au niveau de tout ce qui est argent, opportunité, comme tu disais. Ouais, le networking, etc.
C'est vrai que je sais pas si c'est si ça va être le bon terme ou je vais bien m'exprimer, mais en tout cas, bah moi je suis aux États-Unis. Notre seconde host Anne Fleur est aussi aux États-Unis. Notre community manager est aux États-Unis aussi. Et on s'est rendu compte toutes les trois que c'est un pays où la réussite sociale et professionnelle des autres fait rêver, mais sans jalousie en fait. On est content pour eux. Et il y a un côté en France où bah c'est pas ça en fait, c'est assez si tu gagnes de l'argent ou si tu réussis, bah t'es pas ouais. forcément bien ou qu'est-ce qu'il a sacrifié pour, mais sans voir le positif en fait.
C'est exactement ça et ça c'est vraiment je le savais déjà avant de quitter la France, mais là
tu l'as vraiment découvert.
Quand je suis partie, c'est ah ouais, je l'ai encore plus découvert. Ça a été pas mal d'aller-retour entre Australie et États-Unis justement cette année et je me suis rendu compte même de la différence entre les deux parce que la mentalité est encore différente vraiment entre les deux, mais je me suis dit en fait enfin c'est dingue comme en France, j'ai la sensation qu'il faut pas être trop heureux, faut pas être trop riche, faut pas vouloir trop d'argent, faut pas être trop beau, faut pas être trop épanoui, faut pas avoir trop d'amis parce que sinon ça c'est pas bien, c'est qu'on est une mauvaise personne, c'est qu'on est vénal, c'est qu'on veut écraser les autres, c'est que c'est pas bien vu, en fait, la réussite sociale et professionnelle. Alors, je pense que ça va vraiment changer. Je crois très, très fort aux générations futures et on voit que c'est en train d'exploser. Mais du coup, c'est vrai que moi, je me sens, en tant que femme entrepreneur, je me sens beaucoup plus épanouie à l'étranger pour le moment. Dans les pays, ben oui, les États-Unis typiquement, enfin, c'est les opportunités, tout le monde célèbre la réussite professionnelle, etc. En Australie, c'est un peu...
C'est vrai.
Ouais. Donc ça, j'adore, ouais. Voilà.
Donc du coup, après l'Australie pendant un an, j'allais dire vous êtes partie où, vers quelle destination vous êtes allée?
Alors après l'Australie, on est allé se poser à Bali parce que moi j'organisais une retraite, j'ai une demi-retraite holistique là-bas. Et en fait, on est resté sur place. La première fois, j'avais pas du tout aimé Bali parce que j'avais trouvé ça très superficiel, en fait, très côté Instagram, insupportable. Tout est un peu fake, juste pour faire des jolies photos, tout ça. Et je me suis rendu compte que Bali, c'est pas du tout ce qu'on montre en photo. En fait, le vrai Bali, c'est pas ça. Donc, ça, j'avais pas spécialement aimé. Et puis, en fait, là, en y retournant, j'ai vraiment découvert Bali sous un autre jour. Et je me suis dit, en fait, il faut prendre ce que tu veux prendre. Fermer les yeux sur certaines choses aussi. Mais voilà, prendre ce que tu veux prendre. Et du coup, on s'est installé dans une ville là-bas. Où c'est vrai que c'est beaucoup de digital nomades, donc c'est hyper facile, il y a une super synergie entre tout le monde, il y a beaucoup de coworking, beaucoup de networking aussi, donc c'est top pour c'est top pour pouvoir travailler. Après, ça n'empêche pas que du coup, quand on a besoin d'un peu d'authenticité, je sais que je vais voyager ailleurs et que du coup c'est aussi pour ça que là on fait d'autres choses, on était au Costa Rica, on fait d'autres choses aux alentours, mais pour le moment on s'y plaît beaucoup. Et puis le temps, faut dire ce qu'il en est, le temps, moi j'ai besoin de soleil et clairement. Ouh là là.
C'est ça, ça ouais. joue sur le moral aussi, ça, d'avoir de la chaleur et du soleil en continu. C'est quand même, quand on entend parler nos proches qui sont restés en France, ce qui revient, c'est, moi je parle pour mes parents pour le coup, hein, qui m'écouteront peut-être, mais qui disent très régulièrement, il fait gris, il a plu, c'est morose. Ouais. C'est vrai que c'est pas facile ouais. ça pour voir le positif.
Et exactement, il y a ça, il y a la chaleur. Il y a tout ça, et puis même au-delà de ça, il y a la façon dont on voit la météo aussi. Je vois, enfin, c'est tout bête, mais à Bali, il fait hyper chaud, mais il fait aussi, dans la saison des pluies, tout le temps gris et il pleut beaucoup. Et c'est vraiment un événement heureux là-bas, en fait. Donc les gens ont vachement le sourire, tout le monde a le smile, c'est quand même très différent. Je pense que ça dépend encore une fois de la culture.
Ah oui, tu veux dire que même s'il pleut, vu que c'est nécessaire pour eux cette saison des pluies, elle est vitale. Ouais. Ils le prennent bien.
Ouais. Et du coup, enfin, tout le monde est super content. Et enfin, ouais, moi, quand il pleut à Bali, je suis super heureuse. Je le vis pas du tout comme quand il pleut ici, par exemple. Donc,
ouais, c'est sûr.
Voilà, forcément, évidemment, ça change la donne aussi, quoi.
Quand tu dis que tu es digital nomade et que tu as créé ton entreprise pour aider les personnes à vivre plus sereinement, plus sainement, comment tu partages ton temps? Comment tu arrives à proposer des accompagnements personnalisés? Comment tu te gères, en fait, par rapport à ça?
Alors déjà, je suis pas toute seule, donc ça a été les premières. Enfin, c'est vraiment la chose number one qui m'aide énormément, c'est que je travaille avec une équipe. Donc chacun est vraiment focalisé sur son expertise. On a aujourd'hui entre 8 et 10 personnes en fonction des périodes qui. Enfin, on travaille entre 8 et 10 personnes, quoi. Donc c'est vrai que donc chacun est vraiment concentré sur ce qu'il sait faire de mieux. Et ça, c'est vraiment la clé pour qu'il y ait une super synergie, pour que chacun ne perde pas de temps, que le travail soit super bien fait, etc. Donc déjà, ça c'est. C'est un gros ouf, donc c'est top.
Oui, du coup, t'es bien accompagnée, t'es épaulée.
Ouais. Je suis vraiment épaulée, on partage les mêmes valeurs, donc évidemment, on est investi dans la même mission. Donc non, ça, c'est juste trop, trop bien. Et puis, j'ai beaucoup travaillé, j'ai fait passer mon travail avant tout pendant les deux premières années. Ouais, je travaillais presque 90 heures par semaine, donc c'est vrai que je travaillais énormément.
Waouh.
Ouais. Mais là, voilà, mon objectif fin 2019, c'était d'arriver à vraiment, vraiment réduire mon temps de travail entre 4 et 5 heures par jour. Mission réussie pour le moment depuis 3 mois. Donc, je m'organise différemment. J'ai recruté des nouvelles personnes. Et puis, je me suis moi-même aussi mis un peu de limite en me disant, OK, ben, peut-être qu'il faut aussi penser un peu plus à sa vie perso et à son épanouissement, etc.
Ça.
Parce que c'est ce que tu conseilles toujours aux autres. Donc, les faits, ce que je dis, pas ce que je fais, à un moment donné, il faut arrêter.
Ouais.
donc, en fait, voilà, je manage mieux mon temps. On a énormément de projets. Le truc aussi, c'est que du coup, je propose pas d'accompagnement personnalisé en one-to-one parce que je veux vraiment me concentrer sur la création de solutions qui aident le plus grand nombre de personnes possible.
Alors... Ah, c'est justement ce que j'allais te poser comme question. C'est donc du coup, ce que tu proposes, ça peut, tout le monde peut y trouver en fait son compte dedans.
Exactement. En fait, je pars toujours du principe que selon moi, l'information doit vraiment toujours rester gratuite. Donc, tout ce qui est informatif, ça doit rester gratuit, ça se vend pas. C'est pour ça que je donne énormément de contenu gratuit, donc sur mon podcast aussi, qui est un podcast beaucoup développement personnel.
Oui, qu'on peut retrouver sur iTunes, SoundCloud, en fait, sur presque toutes les plateformes.
Exactement. Donc, déjà là, dedans, je donne beaucoup d'infos, beaucoup d'exercices, etc. Bref, ma chaîne YouTube, mon Instagram, etc. J'ai un magazine gratuit aussi, holistique, qu'on peut avoir chaque mois. Et en fait, les façons dont je vais accompagner les gens, le but, c'est de proposer des choses qui sont pour le plus grand nombre, mais qui soient quand même adaptées à la solution que je propose. Par exemple, les retraites holistiques que je propose, c'est des séjours d'une semaine vraiment de transformation psychologique et physique. Et je vais pas ouvrir ça à 200 personnes. Donc, c'est des choses où je limite le nombre de places entre 18 et 20 personnes parce que je veux pouvoir aider plusieurs personnes en même temps, mais que ça reste adapté à une retraite, par exemple. C'est pareil pour les coachings.
D'accord.
Les coachings de développement personnel.
Comme tu dis, d'accord. Voilà. C'est pas du one-to-one, mais ça reste petit comité qui permet d'accompagner les personnes au mieux possible.
Exactement. Les coachings, c'est pareil.
Super.
Les coachings de 30, 35 places pour le dev perso. Et puis après, il y a des solutions qui sont en beaucoup plus grand nombre. Des programmes, par exemple, mes programmes de détoxification qui sont nos limites. Ça, il y a aucun problème parce que de toute façon, c'est des choses en ligne aussi. Et là, à l'heure où on enregistre ce podcast, là, j'ouvre une académie de développement personnel jeudi, justement.
Waouh!
Voilà, sans limite, c'est du online et c'est pour tout le monde. Et encore une fois, je veux que ce soit accessible, donc c'est du petit prix, mais avec un système d'abonnement pour que tout le monde s'y retrouve, etc. Voilà, j'essaie vraiment de me concentrer sur ce qui va aider le plus grand nombre de personnes parce qu'à mon sens, tout ce que je donne, c'est des choses qu'on devrait apprendre à l'école et qu'on n'apprend pas. Donc j'ai envie de faire passer le message.
Ouais, d'arriver à prendre soin de soi et à s'écouter.
Exactement. Ouais. Et puis tout, prendre du recul sur la vie, arrêter de prendre les choses personnellement, arriver à mieux communiquer, avoir des relations qui sont plus épanouies, avoir plus confiance en soi.
C'est pas facile, hein. La confiance en soi, c'est ce qui est le plus dur, je pense, à obtenir.
Surtout chez les femmes, l'estime de soi et la confiance en soi, c'est pas facile. Hein. Ouais.
C'est ce que j'ai vu que tu... du coup, j'ai été regarder ce que tu proposais comme accompagnement. Et effectivement, comme tu dis, tu parles à tout le monde, hommes, femmes. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont ciblées femmes, en fait.
Exactement.
Et tu penses que c'est important d'aider les femmes à mieux se sentir, à mieux vivre comme en prenant exemple sur toi, d'oser se lancer si elles ont une passion et qu'elles veulent en vivre.
Exactement. Alors, c'est vrai que le contenu s'adresse à tout le monde parce que de toute façon, c'est des problématiques qui touchent tout le monde. C'est clair, il y a des hommes aussi. Mais pourquoi je suis plus adressée aux femmes? Déjà parce que je suis une femme et du coup, mon vécu va plus toucher les femmes aussi parce que je parle de ma relation avec les hommes, de mon rapport à mon corps, etc. Et j'ai envie juste, en fait, en racontant mon histoire, de montrer aux autres que je suis pas mieux qu'elle, je suis pas plus courageuse, je suis pas plus intelligente, c'est juste que je l'ai fait. Donc ça veut dire que toutes les femmes peuvent le faire aussi. Et je pense que c'est important parce que déjà, en tant que femme, on a très souvent peur de l'entrepreneuriat, parce qu'on est aussi dans une société quand même, qu'il faut le dire, quand même patriarcale, où c'est pas facile d'être une femme entrepreneur. C'est pas facile.
Doser, ouais.
Déjà d'une dosée, de comprendre qu'on peut être boss woman, enfin entrepreneur à succès et très féminine, les deux sont compatibles,
ouais, malgré c'est ce vrai.
Qu'on croit. C'est très possible. Et puis tout, et qu'on peut être en bonne santé, et qu'on peut arriver à aimer son corps malgré tous les dictats, et qu'on peut oser porter sa voix et s'aimer même avec nos imperfections. Enfin voilà. Donc c'est vrai que c'est plus adressé aux femmes, mais après bien sûr, disons que les hommes se retrouvent moins dans mon discours parce qu'évidemment je parle de beaucoup de problèmes de femmes aussi. Mais bon, les deux peuvent être concernés de toute façon.
C'est super.
Merci.
Est-ce que tu j'ai vu là que tu nous l'as dit, tu avais fait une retraite au Costa Rica, tu avais proposé ça. Oui. Est-ce que tu as des retours de personnes qui ont participé,
oui,
qui te disent il y a un vrai avant-après?
Oui, bah toutes. Toutes. Ouais, que ce soit à Bali, donc à Bali c'était en novembre l'année dernière. Et donc là, au Costa Rica, d'accord, il y a des transformations qui sont juste incroyables, en fait. Des femmes qui ont tout plaqué, qui ont commencé leur passion, qui sont devenues entrepreneurs, qui ont lancé leur entreprise. Des femmes qui ont créé des associations d'assistance à des enfants qui avaient subi des violences. On a eu des déménagements à l'autre bout du monde. On a eu des femmes qui se sont mises à chanter alors qu'elles étaient super timides. Elles se sont reconnectées à ça. On a eu des nouvelles relations amoureuses. On a eu des transformations absolument incroyables, des projets d'ouverture de bar à vin, des nouvelles marques de bijoux qui se sont lancées. Enfin, on a eu
génial.
Ouais. Il y a toujours un avant après. En fait, ça dépend juste du travail qu'elle continue de faire derrière la retraite. Mais déjà, dans une retraite, en une semaine, on voit la différence de la posture n'est pas la même, la voix n'est pas la même. Il y en a qui changent de couleur d'yeux. C'est incroyable. Donc, ouais, c'est assez dingue.
Tu dois être hyper fière et très contente du projet que t'as amené, et puis surtout de ce que tu as réussi à faire avec l'équipe avec qui tu travailles, enfin d'être arrivée à proposer des programmes comme ça qui sont juste superbes, en fait.
Merci. Alors je dirais que je suis fière du travail d'équipe qu'on fait, et que à chaque fois je suis heureuse et soulagée de voir en fin de semaine les transformations. Je dis soulagée parce qu'en fait c'est quand même une grosse pression pour le moment. Là, pour le moment j'en ai organisé que deux, je fais trois en fait par an, et à chaque fois c'est quand même une grosse pression parce qu'on a des femmes qui viennent avec des problématiques qui sont assez lourdes, et puis ça met de la pression d'aider des femmes. C'est plus des petites filles là, c'est des femmes qui ont des problèmes de femmes, des mamans ou des femmes actives,
ouais,
ou même des étudiantes, bref peu importe. Et c'est vrai qu'il y a quand même une grosse pression de se dire ok, le bien-être psychologique.
Il y a une grosse attente.
C'est ça, ouais, il y a une grosse attente, il y a une très très grosse attente. Donc ouais, moi j'ai beaucoup de pression que je me mets toute seule, et j'ai encore, malgré tout mon travail et le développement perso que je fais, j'ai quand même mon petit syndrome de l'imposteur qui fait un peu surface de temps en temps. C'est normal.
Ah oui.
Ah oui, mais c'est normal, bien sûr. Ouais, c'est complètement logique, et voilà, mais ça m'empêche pas justement de faire de bonnes choses. Au contraire, ça me drive en me disant ok, maintenant, voilà, vois ce que tu arrives à faire, ce que ton équipe et toi vous faites, c'est bien, il faut continuer dans cette voie-là, ça fait du bien aux gens, il faut continuer comme ça, et voilà.
C'est ce qui te motive.
Ouais, c'est ça qui me motive, de voir des gens qui enfin vivent, quoi, et qui arrêtent de survivre, et qui vivent vraiment, et qui savent qui ils sont, quoi.
C'est super. Et du coup, est-ce que tu te considères comme expatrié ou pas du tout, quoi?
Alors, je ne me considère pas comme expat, puisque pour moi, expat, c'est aussi quand tu travailles sur place, ou du moins quand tu es implanté sur place. Voilà.
D'accord.
Donc, pour le moment, moi, je ne suis pas vraiment implantée. Enfin, je n'ai pas de maison fixe, je n'ai rien du tout. Ma maison, c'est mes deux valises. Donc, on verra quand je serai vraiment implantée quelque part. Pour le moment, je ne suis pas vraiment expatriée. Je suis digital nomade, mes sociétés sont toutes basées en France, etc. Pour le moment. On verra ensuite. À la longue, moi, là, je sens que j'ai vraiment, vraiment besoin de me poser quelque part, d'avoir une base, parce que ça commence à être extrêmement fatigant.
De bouger tout le temps.
D'être tout le temps dans les valises. Ouais, émotionnellement, c'est pas facile non plus. On se sent jamais trop chez soi. On peut pas construire une vie sociale stable. Donc, c'est super, mais là, j'ai vraiment besoin de me poser. Et donc, là, on a décidé que ça serait Bali pour cette année. Je vais avoir encore quelques petits allers-retours à faire, mais en tout cas, je pense que je vais me prendre au moins quelque chose de fixe pour cette année à Bali, je pense.
D'accord. Question aussi qui revient, enfin qu'on pose régulièrement, mais que nos invités avec qui on discute, est-ce qu'au niveau administratif, ça n'est pas difficile? Parce que du coup, tu dis que tes sociétés sont basées en France. Comment tu fais pour rester à Bali? Tu as un visa? Vu que tu travailles en digital nomade, mais que tu es sur place, est-ce qu'il y a des papiers à obtenir, à faire?
Alors, niveau administratif, c'est l'enfer, autant qu'on se le dise, parce que franchement...
Ah ouais?
Non, mais gérer l'administratif depuis l'étranger, alors que tout est en France, c'est l'enfer. Juste pour la poste, c'est l'enfer. Donc, tout est l'enfer. On finit à force par trouver des combines ou à ce que la banquière arrive à nous contacter sur WhatsApp, parce qu'évidemment, plus de lignes françaises, donc on est plus joignable par téléphone avec des numéros en France.
Ouais.
Rien que des trucs comme ça.
On a eu la même chose. Des trucs tout bêtes, mais oui.
C'est l'enfer. Ça, c'est l'enfer.
Ouais.
Et du coup... Si on y va, là c'est entre autres pour ça que je reviens en France, hein, c'est parce que là j'ai vraiment besoin de faire le point, même pour des comptes bancaires, pour les sociétés, pour tout, pour l'administratif. Et je pense que, moi en tout cas, vu mon schéma et que j'ai pas d'adresse fixe en fait à l'étranger, c'est ça le problème, je peux rien recevoir, je peux pas faire suivi de courrier, rien ne m'arrive. En plus à Bali, la corruption est telle qu'on ne reçoit jamais, jamais rien. Donc c'est vrai que...
Donc ne pas envoyer, ne recevoir un chèque, c'est même pas possible, envisageable.
Même directement rien, c'est pas possible. Donc, là, voilà, je vais faire des petits sauts en France régulièrement justement pour ça. Mais sinon, pour voyager, je fais toujours en sorte d'avoir des visas de touriste, en fait, puisque vu que mon boulot est en ligne, ça pose pas de problème du tout. J'ai pas besoin de visa particulier, ni de travail, ni rien du tout. Donc là, en Australie, je suis sur des visas touristes. C'est des visas aussi qui m'autorisent pas à travailler dans le pays, mais vu que c'est pas le cas, j'ai aucun problème. À Bali, c'est pareil, il existe des visas touristes, il existe d'autres visas aussi qui permettent de rester un petit peu plus longtemps. Mais du coup, ça, c'est vrai que...
Tes visas tourisme, ils durent combien de temps? Faut que tu rentres en France ou faut juste que tu quittes le pays et que tu re-rentres?
Pour l'Australie, faut juste que je quitte le pays et que je re-rentre. Et c'est exactement pareil pour le visa run de Bali. Donc, c'est tous les deux mois, faut quitter le pays et re-rentrer. Mais de toute façon, je voyage au moins une fois par mois. Donc, ça pose pas de soucis. Mais en gros, voilà.
Tu quittes les frontières.
Ouais.
D'accord.
Donc, on va dire que c'est la seule contrainte vraiment quand on est dans ce schéma-là. C'est que, rester très longtemps dans un pays, c'est pas possible.
Sans bouger.
En fait, ouais, c'est pas possible. Voilà. Faut juste trouver des petites combines, mais ça se fait. C'est fatigant, mais ça se fait. Voilà. C'est plus gérer l'administratif qui est en France, en fait, depuis l'étranger, qui est compliqué quand on n'a pas d'adresse, qu'on a 15 cartes SIM différentes pour les pays où on va, et des grosses valises. Voilà. C'est juste ça qui est un peu pénible, mais bon, ça se gère. Faut juste faire des sauts en France régulièrement, quoi.
D'accord. Bon, du coup, c'est quand même un sacré investissement personnel et tout ce que tu as mené, en fait.
C'est un gros investissement.
Parce que là, c'est... Ça fait rêver, on se dit que tu as réussi quelque chose de super, mais ça n'a pas dû être facile tous les jours d'arriver à faire la part des choses et à faire les concessions de personnel.
Non, c'est pas facile. C'est sûr que c'est pas facile, surtout c'est pas facile, c'est sûr et certain. De toute façon, c'est pas facile de pas être près de ses proches non plus. Enfin, ça, je pense que tous ceux qui sont expatriés le savent. C'est pas facile d'être loin quand on traverse des phases qui sont difficiles. C'est pas facile de demander tout le temps service à ceux qui sont en France pour dire est-ce que tu pourrais me remplir ce papier et me l'envoyer pour moi. il y a plein de choses.
C'est vrai.
C'est un peu gênant, mais bon. Il y a plein de choses qui sont pas faciles, mais honnêtement, avec tout ce que ça offre, c'est rien du tout. C'est des broutilles. Avec la qualité de vie que ça offre, enfin, je peux tout sauf me plaindre, en fait. Je me dis, c'est rien comparé à toutes les merveilles que je peux voir, la chance que j'ai l'impression d'avoir, c'est rien du tout. Donc, je suis prête à le refaire 10 000 fois, quoi. Pour continuer de me lever où je veux.
T'as aucun regret.
Zéro regret. Non, zéro regret. Et je te dis, là, je suis en France, je suis très heureuse d'être là, vraiment. Ça fait un an et demi que je suis pas rentrée, donc je suis trop heureuse de voir mes amis et ma famille, mais j'ai hâte de repartir et d'être dans un endroit où je me sens encore plus à ma place.
À ta place?
Ouais.
Ouais. Et d'ailleurs, ta famille, tes amis, comment ils ont pris ton départ?
Tout le monde l'a pris très bien. Le peu d'amis qui l'ont mal pris, je les ai plus gardés comme amis, puisque je pense que, ça fait partie aussi du tri qu'on fait quand on choisit une vie comme celle-ci aussi. Donc, c'est un mal pour un bien. Mais sinon, non, tout le monde l'a très bien pris. Je sais que, honnêtement, ça a été facile. Ma famille m'a soutenue, ils ont compris. Mes amis, la plupart d'entre eux aussi. J'ai eu beaucoup de nouvelles. Ce qui est facile, c'est qu'avec les réseaux sociaux, du coup, tout le monde a un peu de mes nouvelles, donc c'est pratique pour tout le monde. Et
C'est vrai que ça, c'est bien maintenant de pouvoir donner des nouvelles instantanément.
Je pense que ça fait toute la différence, même d'avoir des photos, des vidéos, d'avoir de tout. On a l'impression que en fait, on s'est jamais trop quitté, et du coup, ça rend les choses faciles. Mais non, ça a été très facile. Et puis, c'est vrai que du coup, forcément, depuis mon départ, j'ai quasiment radicalement changé, en fait, dans mon état d'esprit, physiquement, tout ça. Donc j'avais un peu peur de me dire, punaise, quand je vais rentrer en France, est-ce que je vais encore être alignée avec mes potes, avec ma famille et tout? Et en fait, non, parce que encore une fois, grâce aux réseaux sociaux, ils voient le changement. Eux aussi, du coup, s'ouvrent à bien.
Ils suivent, exactement.
Et puis, ils s'ouvrent au changement. Et puis, voilà, il y a des tas de choses qui se font. Donc, non, en fait, franchement, j'ai l'impression que je suis partie hier. Donc, tout va bien.
C'est que du positif.
C'est que du positif.
Super.
Ça veut pas dire que le retour en France est facile. S'il y a des personnes qui sont rentrées après un long voyage qui m'écoutent, je pense qu'ils comprendront. Le retour est difficile quand même.
On ne sent pas forcément à sa place. On est rentrés, nous, pour les vacances de Noël.
Ouais.
Donc forcément, on n'a plus de chez nous. On était chez nos parents, quelques jours chez les parents de mon mari, quelques jours chez les miens. Et c'est vrai que la France, c'est notre pays, c'est chez nous. Et en même temps, ça ne l'est plus. Et on était un peu... C'était très, très contradictoire. Ouais. On était contents de revoir tout le monde. Moi, j'étais rentrée quelques fois sur l'année 2019, donc j'ai pas de gros... Ça faisait pas si longtemps que ça que j'étais rentrée, donc ça allait. Mon mari, ça faisait un an et demi. Et on s'est senti, voilà, c'était pas tout à fait chez nous, mais ça l'est quand même, pas vraiment à notre place. Enfin, très, très bizarre, ce sentiment de plus d'appartenance.
C'est exactement ça, ouais. Ouais, c'est ça. Tu sais que c'était racine et du coup, tu te dis, bah, c'est chez moi. Moi, par exemple, j'étais juste trop contente de pouvoir manger du pain. J'avais pas mangé de vrai pain depuis un an et demi, donc trop contente. Ça, c'est quelque chose que tu dois connaître aussi, du coup, aux États-Unis. Donc, j'étais trop contente. Et d'un autre côté, je suis arrivée et je me suis sentie, mais tellement mélancolique de me dire, ouais, ça a été chez moi à un moment donné. Et en fait, je me rends compte qu'il y a plein de trucs que j'adore en France, mais qu'en fait, je me sens vraiment plus du tout chez moi. J'ai l'impression d'être complètement à côté de la plaque, en fait.
Ouais.
Donc, ça fait mal au cœur, quand même. Ça fait mal au cœur. C'est pas facile. Là, je suis encore dans mes jours un peu coup de mou. Donc, je prends le temps. Et...
Ça fait que 4 jours que tu es rentrée, c'est ça?
Ouais, c'est ça. C'est ça. Puis le temps est moche.
Donc, il y a plus le décalage horaire. Le temps est moche. Ouais. Voilà, j'allais dire. C'est pas facile aussi de quitter le soleil ou même si c'est la saison des pluies, comme tu disais tout à l'heure, mais de quitter une atmosphère positive qui te réussit vers un endroit qui l'est un peu moins, où c'est plus compliqué de se retrouver, de
se
retrouver.
Et puis même la différence de culture, parce que finalement, on se fait très vite, c'est une chose que tu connais forcément aussi aux États-Unis, on se fait très vite où tout le monde est souriant, très accueillant, très friendly, tout le monde te parle de façon très positive, et que quand on arrive en France, ben, c'est aussi notre culture, on n'est pas des gens très souriants de manière générale, on ne va pas parler à n'importe qui dans la rue.
En premier abord, c'est vrai.
D'accord. Voilà, donc c'est vrai que c'est... Après, on a des tas de côtés positifs, mais le retour, ça met quand même une petite claque, même si on s'y attend. Et par contre, je m'attendais pas à me sentir pas chez moi à ce point. Je m'attendais pas à ça.
Ah oui, c'est le plus dur. Bon,
ça passera.
Mais oui, on te le souhaite en tout cas que ça aille bien pour les dernières semaines.
C'est sûr.
Avant ton retour sur ton île.
Ouais.
Où est-ce que nos auditeurs peuvent te retrouver s'ils veulent en apprendre plus sur toi et puis peut-être écouter tes podcasts, participer à tes programmes ou à une de tes retraites? Comment ils peuvent te contacter en fait? Comment ils peuvent te retrouver?
Alors en fait, ça va simplement dépendre de ce qu'ils ont envie de trouver parce que je propose des choses qui sont très différentes en fonction de mes plateformes. Donc déjà, on peut me retrouver pour tout ce qui est développement personnel, épanouissement, niveau de la vie, etc. sur mon podcast donc qui s'appelle « Une vie plus saine et sereine ». Sur le nom de Chloé Bourg. Voilà, donc ça, c'est vraiment du dev perso et de la réflexion, etc. Et du coup, je propose de rejoindre la Bloom Academy, qui est une académie donc liée à mes podcasts, où on va approfondir chaque semaine les podcasts avec une coach en dev perso. Il y a des lives, des exercices poussés, il y a la transcription des podcasts en plus pour les malentendants, etc. Donc ça, c'est la Bloom Academy qui est liée au podcast. Donc là, c'est vraiment que sur du dev
perso. C'est génial, tu l'as vraiment, t'as fait en sorte que même des malentendants puissent y participer, c'est génial.
Et oui, parce que pour le podcast, c'est très compliqué, donc j'avais vraiment fait que on puisse avoir ça, puis même pour les personnes qui sont un peu plus visuelles et tout. Donc voilà pour les podcasts. Et ensuite, sinon, on peut me retrouver pour vraiment des doses quotidiennes de motivation, d'inspiration, de réflexion, de déclic. C'est plus sur Instagram où là, je vais vraiment poster c'est vraiment des posts dev perso, mais aussi beaucoup sur le ressenti, comment gérer sa vulnérabilité, un peu les routines, etc. Donc je propose pas mal de choses. On a accès à tous mes sites aussi depuis ça, de toute façon. Avec pas mal de choses, même en story, tout ça, c'est plus du quotidien.
Sous le même nom que pour les podcasts.
Pareil, Chloé Bloom aussi.
D'accord.
Exactement.
Bon, on le mettra dans la description de l'épisode, donc nos invités pourront le retrouver. Non, nos invités.
Mais, c'est bien,
nos auditeurs pourront le retrouver. Sur la description de l'épisode.
Merci. Donc voilà, et ensuite sur ma chaîne YouTube, ça va plus être des routines et des rituels, donc qui sont soit dev perso, soit spiritualité, soit beaucoup entrepreneur aussi. Par exemple, tous mes rituels de pleine lune, de nouvelle lune, mes routines de yoga, mon quotidien de femme entrepreneur, de nomade digital, comment est-ce que j'organise mes journées, etc. Avec des choses un peu plus visuelles, des choses qui sont faciles à incorporer au quotidien. Donc toujours Chloé Bloom sur YouTube, en gros, voilà, c'est comme ça qu'on va me retrouver.
Super.
Et ensuite, on me retrouve aussi sur LinkedIn pour le côté vraiment exclusivement entrepreneur, mindset entrepreneurial au féminin. Voilà, sur LinkedIn.
D'accord.
Ouais. Et puis, j'ai une newsletter aussi,
super. Bien,
si jamais les gens veulent s'abonner. Où c'est, en plus, ça, c'est du contenu 100% gratuit sur des thèmes de dev perso, de spiritualité et des recettes culinaires aussi, chaque semaine dans la boîte aux lettres. Voilà.
Wow, super. Ouais. Bah, merci beaucoup.
Et
j'ai une petite dernière petite question. On aime bien donc demander à nos invités des lieux qu'ils recommanderaient dans l'endroit où ils vivent actuellement ou dans un endroit où ils ont vécu. Est-ce que tu aurais des endroits à conseiller?
Oui, alors en Australie, mon gros coup de cœur, donc j'ai eu deux gros coups de cœur pour les villes, ça a été Melbourne, qui est comme une petite Europe en fait, la culture est incroyable là-bas, et sinon mon énorme coup de cœur, ça a été Byron Bay, donc là j'y retourne d'ailleurs dans trois semaines, quand je serai rentrée, donc dans un mois et demi, et c'est une ville où tout le monde marche pieds nus, les femmes ont des super longues robes hippies, les cheveux longs, les gens jouent de la guitare, c'est très yoga, on a des fleurs dans les cheveux, on a plein de petits cafés.
C'est près de Melbourne?
Non,
ou c'est vraiment à l'opposé?
C'est près de Sydney, c'est au-dessus de Sydney.
D'accord, ok.
Donc il fait tout le temps beau, c'est vraiment l'ambiance yoga, un peu hippie vibes, relax, super sympa. Et enfin, moi je recommande vraiment de faire une petite escale là-bas, que ce soit entre femmes ou en amoureux ou même juste entre copines ou peu importe, parce que c'est hyper, c'est un
ressourçant.
Ouais, c'est un petit monde à part, c'est incroyable. C'est une ville moi que j'aime beaucoup.
Super. Et sur Bali, est-ce qu'il y a un endroit que tu recommanderais?
Eh ben, alors sur Bali, justement, ça va dépendre en fait de ce qu'on cherche. Si on cherche vraiment de l'authenticité, le vrai Bali, il faut pas aller là où j'habite. Donc moi, je suis du côté de Canggu, qui est super.
D'accord.
Si on est justement digital nomade comme moi, je conseille vraiment d'aller là-bas. On s'éclate, ça combine tout, le surf, le boulot, les cafés, tout ça. Mais si on cherche un peu plus d'authenticité, il y a une ville que j'aime beaucoup dans Bali, qui est dans les montagnes de Bali, au milieu des champs d'hortensia. C'est Mundok, c'est dans les montagnes. C'est super beau, il y a la jungle, il y a des lacs qu'on peut visiter, on peut parler aux locaux, dormir chez les locaux.
Wow.
C'est ça, c'est le vrai Bali, ouais, c'est Mundok, c'est super sympa.
Bah, merci beaucoup. Ça fait rêver.
Avec plaisir, j'espère que ça plaira.
Merci vraiment d'avoir accepté de participer à notre épisode. Nous te souhaitons vraiment le meilleur pour l'année 2020 qui ne fait que commencer, en espérant que tous tes projets continuent à se développer et aboutissent.
Merci beaucoup. Et je souhaite encore très longue vie à ce podcast-là, justement, parce que je trouve que c'est vraiment, vraiment sympa de pouvoir confronter plein d'horizons comme ça et montrer en fait à plein de gens que c'est possible en fait de partir.
Tout à fait.
Partir à l'étranger, aujourd'hui il n'y a plus de limites. Donc je trouve ça vraiment génial ce concept-là. Donc vraiment merci encore une fois de m'avoir invité.
Mais merci à toi. On te remercie pour tout ce bon moment.
Merci beaucoup.
Et voilà, c'est la fin de ce tout nouvel épisode. Merci à notre invité d'avoir accepté de témoigner notre micro. J'espère que cela vous aura plu. Si vous souhaitez nous aider à grandir, vous pouvez vous rendre sur votre plateforme de podcast préférée. Apple, c'est le must, pour nous mettre de nombreuses étoiles et nous laisser un avis. Cela aide le podcast à gagner en visibilité et pour nous, c'est encourageant et ça nous motive à nous dépasser et à vous proposer des épisodes toujours plus géniaux. Si vous souhaitez discuter de cet épisode, rendez-vous sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, Facebook et Instagram. Retrouvez la vignette de l'épisode et venez échanger avec l'équipe, notre invité et même entre vous, auditeurs. Vous êtes une communauté géniale et nous vous en remercions. Sur ce, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle histoire.
Vous venez d'écouter un podcast réalisé par moi-même, Alpha Andrely, mixé et habillé par Alice Krief et produit par French Morning. French Expat n'est pas le seul podcast de French Morning. Pour retrouver tous les podcasts du groupe, rendez-vous sur frenchmorning.com/podcast. À bientôt!